Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bientôt la sortie de crise pour l'Italie. Les populistes et le centre-gauche annoncent un accord de coalition. Ils mettent leurs différends de côté pour évincer Matteo Salvini, chef de l'extrême droite. Lui crie au déni de démocratie. Nous rejoindrons notre envoyé spécial en Italie dès le début de ce journal.
Au Royaume-Uni, en revanche, la crise politique se poursuit. Boris Johnson veut suspendre les débats parlementaires avant le Brexit. Pour quelle stratégie ? Élément de réponse à suivre.
Dans cette édition, vous entendrez aussi la comédienne et réalisatrice Eva Darlan. Elle lance une lourde charge contre le gouvernement et la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes. Le nombre de féminicides continue d'augmenter en France, 98 meurtres depuis le début de l'année.
Pourquoi 17 enfants sont-ils victimes de cancer autour d'une même commune ? En Loire-Atlantique, l'Agence régionale de santé doit communiquer aujourd'hui à ce propos une enquête très attendue.
Nous irons enfin en Éthiopie où a été découvert un crâne fossilisé, là où fut trouvée Lucie en 1974. Il a été dévoilé hier et il a dévoilé tous ses secrets. Après ce journal, par ailleurs, Frédéric Seyss, dans son billet politique, analysera la future candidature de Cédric Villani à la mairie de Paris. Ils étaient jusque-là ennemis jurés. Les voilà alliés, pour la forme en tout cas. Les populistes italiens du mouvement 5 étoiles et le parti démocrate de centre-gauche se sont mis d'accord pour former un gouvernement de coalition. Ils l'ont annoncé hier soir. Giuseppe Conte, aux 5 étoiles, devrait être logiquement conforté dans ses fonctions de président du Conseil. Il est convoqué pour cela ce matin par la présidence. Et il écarte de facto son ancien allié de circonstance, la Ligue d'extrême droite et son chef de file, Matteo Salvini, un grand écart politique. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyée spéciale en Italie. La perspective d'élections anticipées s'éloigne et c'est donc Isabelle un coup dur pour Matteo Salvini qui a fait exploser sa coalition pour revenir au pouvoir. Aujourd'hui, il est quasiment hors jeu.
Effectivement, il n'avait pas prévu que ses anciens alliés des 5 étoiles et le Parti démocrate, qui sont à couteau tiré depuis plusieurs années, réussiraient à surmonter leurs divergences. D'ailleurs, il a tout fait ces derniers jours pour court-circuiter leur alliance, offrant même à Luigi Di Maio, le patron du mouvement anti-système, le poste de Premier ministre dans un nouveau gouvernement. Aujourd'hui, Matteo Salvini charge le Parti démocrate, passé des rangs de l'opposition à ceux de la majorité, sans avoir gagné aucun scrutin.
Des millions d'électeurs sont en train de se demander à quoi sert leur vote si ceux qu'ils ont jetés par la porte reviennent par la fenêtre. Ça ne serait pas plus sage, plus honnête de faire voter les Italiens pour avoir une majorité solide, stable pour 5 ans. La vérité, c'est que 60 millions d'Italiens sont pris en otage par 100 parlementaires agrippés à leur fauteuil.
Ceux qui fuient le verdict des urnes ne peuvent pas fuir indéfiniment, dit encore Matteo Salvini. Et si nous ne gagnons pas dans 2 mois, nous gagnerons dans 6 mois ou dans 1 an.
Mais Isabelle, à plus court terme, pour les prochains jours par exemple, que va-t-il se passer ?
Eh bien, si Giuseppe Conte est reconduit dans ses fonctions, il devra transmettre au président une liste de ministres. De leur côté, les 5 étoiles veulent soumettre cet accord de coalition à leurs partisans à travers un vote sur leur site internet de démocratie directe. Or, on sait que beaucoup de militants sont très hostiles à une alliance avec les démocrates.
Merci Isabelle. Isabelle Labéry depuis l'Italie ce matin pour France Culture. Prenons maintenant la direction du Royaume-Uni où, là aussi, le respect d'un vote fait débat à 2 mois d'un Brexit programmé. Le Premier ministre Boris Johnson a décidé de suspendre pendant 5 semaines les travaux du Parlement britannique, ne laissant plus aux députés qu'une petite semaine début septembre, puis une quinzaine de jours fin octobre pour discuter d'un Brexit avec ou sans accord. Des milliers de personnes ont manifesté hier soir à Londres, Manchester ou à Édimbourg, brandissant un drapeau européen, refusant ce qu'elles appellent un coup d'État. Même revendication pour le million de signataires d'une pétition qui a été mise en ligne il y a moins de 24 heures. Le responsable travailliste du Labour au Royaume-Uni, Jeremy Corbyn, dénonce aussi une menace pour la démocratie.
Suspendre le Parlement n'est pas acceptable. Le Premier ministre piétine notre démocratie pour imposer une sortie sans accord de l'Union européenne. De quoi a-t-il donc si peur pour suspendre le Parlement et l'empêcher de débattre sur le sujet ? Donc lorsque le Parlement se réunira, très brièvement, la semaine prochaine, la première chose que nous ferons sera d'essayer de légiférer pour l'empêcher de parvenir à ses fins. Et deuxièmement, nous déposerons une motion de censure à son encontre.
Alors, à quoi joue Boris Johnson? Question posée par Stanislas Vazak à Emmanuel Saulnier-Cassia. Elle est professeure de droit public à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, spécialiste du Brexit et de l'Union européenne. Voici sa réponse.
Je pense que Boris Johnson a tout à fait la personnalité qui lui permette, s'il le faut, de faire sortir son pays sans que rien juridiquement ne soit certain. C'est-à-dire sans accord. Il sacrifiera son pays pour rentrer dans l'histoire afin de faire sortir coûte que coûte le Royaume-Uni de l'Union européenne. Sur son modèle historique bien-aimé Winston Churchill, il voudra entrer dans l'histoire en faisant quelque chose de éventuellement scandaleux ou sacrificiel. Et je pense qu'il est tout à fait capable de vouloir pour respecter la parole qu'il a donnée à l'électorat britannique que la sortie se ferait coûte que coûte le 31 octobre. Il est parfaitement capable de le faire sans état d'âme.
Et j'ajoute que face à l'hypothèse grandissante d'une sortie de l'Union sans accord par le Royaume-Uni, la livre sterling a chuté hier soir de 0,6% face à l'euro et au dollar. Elle est bien connue à Bruxelles, parle quatre langues et elle fut une éphémère ministre des armées. Sylvie Goulard a été choisie par Emmanuel Macron pour siéger à la Commission européenne et pour y représenter la France. Une candidature toutefois entachée par une affaire judiciaire en cours, celle des emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires, c'était en 2017. La rougeole réapparaît dans quatre pays du continent européen, au Royaume-Uni, en Grèce, en République tchèque et en Albanie. Voilà le constat publié par l'Organisation mondiale de la santé. Ce matin, l'OMS note pour la première fois en 7 ans une augmentation du nombre de cas de cette maladie très contagieuse. Il y en a cette année deux fois plus qu'en 2018 à la même époque. Et en France, 2400 cas ont été recensés depuis le 1er janvier, dont deux morts. La vaccination contre la rougeole y est désormais obligatoire pour tous les enfants.
8h06 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Une femme pourrait avoir été tuée hier sous les coups de son ancien compagnon.
Oui, cela s'est passé dans le département de la Vienne. L'homme est en garde à vue et cela porterait à 98 le nombre de féminicides depuis le début de l'année en France. Hier d'ailleurs à Paris, un rassemblement contre les violences faites aux femmes avait lieu à l'initiative de la comédienne et réalisatrice Eva Darlan. Elle accuse les membres du gouvernement d'inaction et qualifie le Grenelle des violences faites aux femmes prévu la semaine prochaine d'inutile.
Il n'y a aucune volonté politique concernant la défense des femmes. Voilà. Aucune, on n'en a rien à faire. On met Madame Chapa qui s'agite, donc toutes les énergies se cristallisent sur elle. On l'agresse, mais c'est pas elle. C'est l'arbre qui cache la forêt. Les vrais responsables, c'est Castaner, c'est Belloubet, c'est Macron, c'est Philippe. C'est eux les vrais responsables. Alors ils nous mettent devant une marionnette qui fait scandale et qui fait un Grenelle pour cacher le problème. Pendant ce temps-là, on gagne du temps. Mais depuis qu'elle a annoncé le Grenelle jusqu'à l'ouverture, c'est-à-dire maintenant, il y a 25 femmes qui sont mortes. OK ? Donc ça a servi à quoi, ça ? Ben, elle a passé de bonnes vacances, je suppose. Ils ont tous passé de bonnes vacances.
Voilà la colère d'Eva Darlan à la Tribune à Paris hier. Quant au Grenelle des violences faites aux femmes, il débutera à partir de mardi prochain à Matignon. Sur France Culture, ce matin, nous nous sommes intéressés aux applications numériques pour lutter contre ces violences. Un reportage de la rédaction à retrouver sur notre site franceculture.fr. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, voulait une annonce choc. Une hausse de 300 euros en moyenne par an sur le salaire des professeurs en 2020. Information qu'il a communiquée hier soir. Pourtant, cette revalorisation salariale avait déjà été négociée sous le quinquennat de François Hollande. Voilà ce que soulignent les syndicats. Rien de nouveau donc. Certains ont déjà annoncé des grèves en septembre. En saura-t-on plus sur les cancers pédiatriques qui touchent en nombre des enfants en Loire-Atlantique, dans et autour de la commune de Sainte-Pazanne? 17 enfants y ont déclaré des cancers, 3 déjà sont décédés. 2 agences ont été mandatées pour mener une enquête et elles vont fournir aux familles ce soir leurs premiers résultats, Tara Schlegel.
L'Agence régionale de santé, l'ARS, doit communiquer sur les premiers prélèvements de l'air, d'abord intérieur et extérieur, effectués notamment dans l'école privée et la cantine où ont été scolarisés certains petits malades et sur le site de l'ancienne usine de traitement de bois située juste à côté. Prélèvement de l'eau aussi où l'on pourrait trouver des traces de pesticides, de perturbateurs endocriniens, mais également mesure des champs électromagnétiques. C'est l'une des pistes possibles. Les lignes à très haute tension émettent des fréquences extrêmement basses, classées comme cancérogènes possibles par l'OMS. À Sainte-Pazanne, ces lignes ont été enterrées à une faible profondeur. Il se trouve qu'elles passent sous l'école privée de la commune. Une exposition annuelle supérieure à 0,4 microtesla, c'est l'unité de mesure, semble déjà dangereuse, dit l'OMS. Or, en France, la norme autorisée est de 100 microtesla. Et encore ne sait-on pas bien mesurer l'exposition chronique à ce type d'émission. Les résultats de ce soir sont donc extrêmement importants pour Marie, dont le fils est en rémission, et pour toutes les familles qui continuent à se battre afin de comprendre ce qui empoisonne les enfants du secteur de Sainte-Pazanne. Outre l'ARS, Santé publique France présentera aussi quelques éléments encore très limités ce soir. Les questionnaires envoyés par l'agence aux familles ne l'ont été que début juillet. Rappelons que Marie avait lancé l'alerte il y a presque 2 ans et demi.
Tara Schlegel, spécialiste santé de France Culture. Cette question à présent, qui sont les légitimes propriétaires de 3 tableaux d'André Derain exposés dans des musées à Troyes et à Marseille? Est-ce l'État français ou les descendants du collectionneur juif René Guimpel? La justice doit trancher aujourd'hui après avoir été saisie par la famille Guimpel. Elle estime que le collectionneur a été spolié par la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Florence Turme.
René Guimpel fut l'un des plus grands marchands d'art du début du siècle dernier en France, aux côtés de la famille Wildenstein, avec laquelle il partagera également une galerie aux États-Unis. Nul ne conteste son passé de résistant, il mourra en déportation en 1945. Nul ne conteste non plus l'acquisition de 6 tableaux d'André Derain qui lui seront adjugés en 1921 lors d'une vente aux enchères à Drouot. Paysages à Cassis, La Chapelle sous Crécy et Pinède Cassis, ces 3 paysages peints entre 1907 et 1910 que réclament les héritiers du collectionneur faisaient-ils partie du lot? C'est tout l'enjeu de ce débat judiciaire contraint de plonger dans l'histoire et le parcours des toiles en question, car les 3 tableaux d'André Derain ont voyagé au gré des ventes et au fil du temps. New York, Londres, Paris, on perd leurs traces, ils changent de nom, sont parfois réentoilés. Autant d'incertitudes soulevées par l'avocat du ministère de la Culture et ceux des musées concernés qui défendent la légalité de leurs acquisitions. La famille Guimpel, quant à elle, explique avoir retrouvé les œuvres au fil des expositions, s'indigne de l'inertie de la France, pourtant signataire de l'accord de Washington sur l'indemnisation des spoliations. Mais au-delà de la restitution, insiste son avocate, c'est aussi le rétablissement de la mémoire de René Guimpel qui est important. Lors de la rétrospective de Reims en 2017 au Centre Pompidou, son nom n'avait pas été mentionné.
Et notons que l'année dernière, dans le même contexte, la justice française avait confirmé la restitution d'une gouache de Pissarro à ses descendants. Le tableau était détenu par des Américains qui l'avaient acheté légalement aux enchères en 1995. L'objet date de plus de 3,5 millions d'années. Un crâne qui nous dévoile l'évolution des premiers hominidés jusqu'au genre Homo, le nôtre, sur notre planète. Ce fossile a été découvert dans le nord-ouest de l'Éthiopie en 2016, mais les premières conclusions scientifiques ont été dévoilées hier à Addis Abeba. Vincent Dublange y était, entouré de scientifiques.
Je n'en croyais pas mes yeux lorsque j'ai vu le reste du crâne. Le chercheur éthiopien Johannes Haile Selassie se rappelle bien de ce 10 février 2016. Un travailleur à phare venait de retrouver un morceau de crâne et 3 mètres plus loin, le paléo-anthropologue aperçoit l'autre partie.
C'est le crâne le plus complet d'un hominidé ancien, spécifiquement parmi ceux datant de plus de 3 millions d'années.
Le gouvernement éthiopien autorise exceptionnellement son transfert vers les États-Unis où un scanner le reconstitue en 3 dimensions. Ensuite, une équipe de dessinateurs fait naître un visage, une première, car nous n'avions aucune idée jusqu'ici de la morphologie faciale des hominidés entre 3,8 et 3,6 millions d'années. Désormais, on peut comparer l'espèce de Lucie et celle-ci. Et surprise, ils ont vécu en partie en même temps.
L'ancêtre et le descendant se sont chevauchés pendant au moins 100 000 ans. Ce que cela signifie, c'est que le mode d'évolution n'est pas linéaire. Des populations d'Anamensis se sont probablement séparées de la population principale, ont traversé de nombreux changements et avec le temps se sont différenciées de ce qu'ils étaient à l'origine.
Comment les espèces ont-elles évolué pour donner naissance au genre Homo ? L'Australopithèque Anamensis est un pont, explique Stéphanie Mellilo de l'Institut allemand Max Planck.
Avec MRD, nous retrouvons certaines caractéristiques faciales spécifiques aux Australopithèques, combinées à certaines caractéristiques du crâne que l'on ne retrouve que chez les fossiles les plus anciens.
La zone de recherche est exploitée depuis près de 15 ans. Nous allons y retourner, ont promis les chercheurs.
Vincent Dublanche, correspondant de RFI à Addis Abeba pour France Culture. La tempête Dorian se transforme en ouragan dans l'arc antillais en ce moment. Il est sur Porto Rico et il est attendu en Floride en fin de semaine où l'état d'urgence a été déclaré. Pas de tempête en France métropolitaine, mais une sécheresse qui dure. Pour preuve, ce matin, seuls deux départements ne sont pas en vigilance. Le temps d'ailleurs sera calme ce matin sur l'ouest, plus instable en revanche sur la partie est du pays avec quelques petites averses prévues sur le Grand Est. Il fera dans la matinée 17 degrés à Brest, 21 à Lille, 22 à Paris et Bordeaux, 26 degrés à Lyon, 29 ce matin à Perpignan.